Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.
La guerre de 1996 et 1998 en RD Congo n'ont pas que fait empirer la situation économique déjà déplorable, mais surtout provoquer des millions de victimes dont les plus exposés et visés sont cruellement frappés par les crimes de toutes catégories. Ce sont des victimes de violences sexuelles. Elles ont été atteintes dans leur dignité, leur intégrité physique et morale, mais aussi dans leur vie. D'autant, elles sont traumatisées dans leur vécu quotidien et en garde des séquelles. Droits et devoirs consacrent des émissions à cette catégorie de personnes. Dans la première aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre ainsi que la perception des lois inhérentes. Bien que les infractions se rapportant aux violences sexuelles soient commises à travers l'étendue du territoire national, nous nous sommes déplacés à Goma auprès de ces victimes des violences sexuelles et basées sur le genre dans la province du Nord Kivu, où l'on observe une forte proportion de ces crimes et pour plus d'illustration. Quel est l'état de la situation des violences sexuelles à nos jours dans cette province? Comment lutter contre ces violences? C'est autour de cette problématique que votre magazine planche. Jeff Ngoyi est à la présentation de ce magazine coproduit avec le concours de Jean-Marc Matwaki. Nous avons identifié quelques victimes des violences sexuelles dans le Nord Kivu à Goma, à l'hôpital de Kieshero et au centre communautaire polyvalent Buolo de Mugunga. La plupart, ce sont des femmes ou filles de 15 à 20 ans et garçons de 11 à 12 ans. Ces victimes accusent d'anciens rebelles et des civils d'avoir été à la base de leur malheur. Témoignage.
J'ai été violée par 5 rebelles dans la brousse un matin. Ils ont abusé de moi. Après, ils m'ont abandonnée. Puis j'ai appris qu'il y avait un hôpital qu'on appelle l'hôpital de Kieshero, où je suis allée et j'ai été très bien accueillie et soignée. Après les soins, j'ai été présentée à un avocat pour une prise en charge judiciaire, puis on m'a donné de l'argent pour démarrer une activité commerciale et j'ai fait maintenant de la friperie. Mon mari, qui m'avait abandonnée avec les enfants, m'a rejoint après avoir appris mon intégration socio-économique et l'achat d'une parcelle. Je leur pardonne. Je sais qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Je fais la couture ici au CCP depuis 3 ans. Quand j'ai été violée, je suis allée à la police et là, on m'a envoyée ici au CCP. Puis nous sommes partis à l'hôpital de Kieshero où nous avions bénéficié des soins gratuits des avocats pro-déo. Notre bourreau a été arrêté et condamné à la prison de Munzenze. On nous a ouvert des ateliers pour coudre des habits et l'habit que je porte moi-même, je l'ai cousu. D'autres fabriquent de l'huile, du savon. Je remercie le gouvernement canadien pour ce geste. Nous avions été violées, certaines parmi nous, au même moment, d'autres les unes après les autres. Nous étions stigmatisées, comme si nous faisions partie d'une autre espèce de gens, pas comme des humains. Les bonnes volontés sont venues à notre secours et le programme nous a donné de l'argent pour notre réinsertion socio-économique. Certaines font la couture, d'autres le petit commerce.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Okapi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine Droits et Devoirs. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi à partir de 6h30, 13h30 et 20h30, tous les jeudis à 9h15.
Vous Vous êtes les bienvenus, vous qui venez à peine de nous prendre en cours de diffusion. Vous êtes en train de suivre le magazine Droits et Devoirs. Nous parlons de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que la perception des lois inhérentes. Après les différents témoignages des victimes que certains parmi vous ont suivis tout à l'heure, vous allez vous en rendre compte. Plus de 100 000 femmes, filles et garçons sont prises en charge par le PNUD à travers son programme Tupinge Ubakaji, qui veut dire combattre le viol avec le financement du gouvernement canadien. Plus de 800 dossiers judiciaires avec 80% de condamnations ont été instruits devant les cours et tribunaux depuis 3 ans. La directrice pays du PNUD, Madame Pouya, fait le bilan du programme Tupinge Ubakaji.
Le programme de lutte contre les violences sexuelles ici à l'est du pays cherche vraiment à soutenir les femmes, les filles qui ont été victimes de viols. Et c'est une approche holistique qui cherche vraiment à encadrer ces femmes, ces filles, à travers d'abord le soutien médical, l'assistance judiciaire, le soutien scolaire, la réinsertion socio-économique. Donc vraiment, on cherche à encadrer ces femmes, ces filles, les soutenir de manière intégrée avec nos partenaires et leur redonner espoir, leur redonner respect.
Comment s'est fait le suivi et l'évaluation de ces programmes Tupinge Ubakaji?
Donc, nous sommes heureux de dire que nous avons pu, à travers ce programme, soutenir plus de 5000 femmes et filles en termes de prise en charge. Il y a eu plus de 800 cas judiciaires avec 80% de condamnations. Nous avons travaillé avec 25 écoles et 5 universités en termes de réinsertion scolaire et plus de 1000 femmes et filles ont pu bénéficier de réinsertion socio-économique. Donc d'abord, je pense que c'est des chiffres très parlants en termes des résultats atteints. Mais pour nous, le résultat le plus important, c'est que nous avons aidé à briser le système d'impunité, briser le silence autour de ces violences contre les violences sexuelles et vraiment d'accompagner les filles, les femmes dans la société, dans les communautés. Le programme va continuer jusqu'en mars 2018 et nous espérons avoir un deuxième programme qui va continuer de bâtir sur ces efforts et qui commencera en 2018.
Quelles sont les faiblesses et les points forts de ces programmes?
Les points forts, c'est d'abord l'approche holistique qui encadre vraiment à tout point les femmes et les filles. C'est un partenariat entre notre bailleur, le Canada, les agences du système des Nations Unies, bien sûr les autorités provinciales et locales et les victimes. Donc nous travaillons tous ensemble dans le cadre de ce programme. Un autre grand succès, c'est ce qu'on appelle le One Stop Center, où les victimes peuvent aller et reçoivent un encadrement complet, que ce soit l'assistance médicale, l'assistance juridique, le soutien scolaire ou le soutien en termes de socio-économique. Donc au lieu d'aller à des guichets différents, c'est un endroit où elles peuvent aller et avoir tout le soutien et être encadré en termes des services. Maintenant, où est-ce qu'on doit continuer de travailler? Je pense qu'il faut continuer à maintenir les efforts de dialogue, de sensibilisation autour de la lutte contre les violences sexuelles. Il est important de continuer à rompre le silence social, le silence institutionnel autour de cette lutte. Il faut continuer, bien sûr, à promouvoir non seulement l'engagement des femmes et des filles, mais surtout l'engagement des hommes dans la lutte. Et vraiment, il faut continuer de bâtir sur les acquis. Comme vous le savez, il y a certaines zones où nous avons l'insécurité. Il y a certains endroits où c'est plus difficile d'avoir l'accès aux services pour les victimes. Et c'est là où vraiment nous devons continuer à améliorer notre soutien.
La ministre du Développement international et de la Francophonie du Canada, Marie-Claude Bibeau, traduit son émotion après avoir entendu l'irréparable.
Le gouvernement du Canada, nous avons récemment annoncé notre nouvelle politique d'aide internationale et ce sera une politique féministe parce que nous faisons le constat après une longue consultation que les femmes et les filles sont les plus vulnérables devant la pauvreté, devant la violence, mais elles sont aussi, lorsqu'on leur donne les capacités, elles sont aussi des agents de transformation, de développement et de paix très importants. Donc c'est pour ça que le Canada veut investir dans les femmes et dans les filles et quand on vient ici en RDC, on constate avec regret et je dirais douleur même, l'importance des violences sexuelles dont sont victimes principalement les femmes et les très jeunes filles. Alors, c'est pour ça que déjà on investit des ressources importantes importante pour venir en aide à ces femmes et à ces filles, toutes les personnes victimes de violences sexuelles, autant au niveau de la santé physique, mais aussi de la santé mentale et du soutien juridique aussi, de la recherche de la justice, parce que c'est tout aussi important, parce que on a vraiment un travail important à faire au niveau de la culture et c'est un travail de longue haleine dans lequel il faut investir.
Et qu'est-ce que le gouvernement canadien apporte à travers cet investissement, à travers cet appui? Ça s'est traduit en quels termes?
Alors, on va intervenir, on va appuyer différents partenaires dans le secteur médical purement, qui vont toucher la santé sexuelle et reproductive, la planification aussi. Donc, on va vraiment venir en aide au niveau physique, au niveau soutien médical à ces femmes, ces jeunes filles qui ont été agressées. On va aussi donner un support psychosocial pour les aider à survivre à ce traumatisme et on va leur fournir un support juridique aussi, donc pour pouvoir monter un dossier, pour pouvoir demander à la police de faire les poursuites et que les coupables soient poursuivis et qu'ils soient jugés et qu'ils aient des sentences, que les victimes aient justice face à ces crimes parce que avoir justice, ça fait aussi partie de la guérison.
Quelle stratégie spécifique avez-vous pour résoudre ces problèmes qui est devenu un phénomène qui gangrène la société congolaise et plus particulièrement dans le Nord Kivu?
Je crois qu'il faut travailler aussi dans les communautés avec les leaders, que ce soit les leaders religieux ou les leaders dans les différentes communautés. Il faut changer la culture. On a besoin des hommes dans cette démarche-là. On a besoin que des hommes se lèvent pour dire que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est important. Le respect envers les femmes, envers leur épouse, leur mère, leur sœur, leur fille, c'est important. Donc, on a vraiment besoin d'avoir la voix de ces hommes forts qui vont aider ce changement de culture-là. Parce qu'on sait que quand on donne à ces femmes, à ces filles, le pouvoir d'avoir une éducation et de pouvoir contribuer à leur famille, à leur communauté, ça va avoir un impact sur la croissance économique de la communauté et du pays aussi.
Lorsqu'on échange avec les victimes de ces violences sexuelles, elles émettent le vœu de voir la paix, la sécurité être rétablie en RDC et disent que c'est l'une des causes de ces violences. Est-ce que le gouvernement canadien peut faire quelque chose dans ce sens-là pour que la paix et la sécurité règnent? On sait que ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle des autorités congolaises, mais que peut être l'aide du gouvernement canadien?
Oui, on est tout à fait d'accord que l'une des solutions, c'est de faire en sorte que la population ait confiance en son gouvernement, confiance en ses institutions, que ce soit légal, ses différents ministères, les institutions financières. Toute cette relation de confiance avec les autorités, avec les institutions, c'est fondamental pour qu'on trouve la paix et la stabilité dans un pays. Alors, le gouvernement canadien peut avoir de telles discussions avec le gouvernement local pour pouvoir les encourager sur la voie de la démocratie, de fournir de l'assistance technique aussi à différents ministères pour qu'il y ait le développement de bonnes politiques qui vont prendre en considération les besoins des différents groupes plus vulnérables dans la communauté. Donc, je crois qu'au niveau de l'assistance technique, on peut aussi avoir une contribution.
Vous avez visité l'hôpital de Keshero. Vous avez échangé avec ses victimes. Qu'est-ce qui vous a ému à l'issue de cette visite?
C'est horrible d'avoir les témoignages d'enfants qui ont été victimes de violences sexuelles. C'est horrible quand on parle de femmes aussi, bien évidemment, d'adultes. Mais quand on voit, quand on rencontre une toute petite fille, un petit garçon qui ont été victimes de tels crimes, il y a pas de mots pour expliquer ça, il y a pas de mots pour le justifier. Et puis, dans le cas de ces enfants que j'ai rencontrés, ils ont eu la chance d'avoir des parents qui étaient là pour les soutenir, qui ont su, qui amenaient leur enfant dans un centre pour pouvoir leur offrir les services, qui ne les ont pas abandonnés. Mais ça aussi, c'est quand j'ai des témoignages de femmes qui disent que leur mari les a abandonnés ou que leur famille abandonne une adolescente qui est enceinte suite à un viol. C'est épouvantable. Il faut avoir le soutien de notre famille quand on vit un drame comme ça. Donc, c'est difficile d'avoir de tels témoignages.
Vous avez un message particulier à adresser aux autorités congolaises?
Il faut cesser la violence. Et donc, ça commence par là. Quand on va trouver la paix, la stabilité, probablement c'est là qu'on va pouvoir investir, avoir des solutions plus durables.
Merci de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Votre magazine de droits et devoirs se poursuit. Nous parlons de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que la perception des lois inhérentes. Cette émission est produite depuis la ville de Goma. Nous sommes maintenant au centre de réinsertion socio-économique considéré comme la voie de sortie après la prise en charge médicale. Dans une ambiance de joie, les réinsérés du centre communautaire et polyvalent de Buolo à Mugunga accueillent frénétiquement les hôtes venus du Canada et de Kinshasa. Elles leur souhaitent la bienvenue. Karibuni Pote. La ministre canadienne échange avec les victimes.
Je veux vous dire que pour le Canada, quand on travaille dans le développement avec vous, ce qui est le plus important, c'est de donner plus de pouvoir aux femmes. Bon, on sait que souvent les femmes sont les victimes de la pauvreté et de la violence, et que c'est très difficile. Mais on sait aussi que si on donne l'éducation, si on donne la chance aux femmes d'avoir un travail, elles sont très très fortes et elles vont faire une différence. Et que des mamans qui sont fortes, ça fait des garçons et des filles qui sont fortes. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage pour continuer dans vos apprentissages pour avoir une vie meilleure. Sachez que le Canada et les Canadiens, on pense à vous et on veut vous aider.
Madame Bibeau transmet aux femmes un message de réconfort et un appel au leadership féminin.
Je crois que ce sont des femmes qui sont très fortes. Et aussi, quand on se rassemble et qu'on échange entre femmes, ça nous permet de faire face à nos pires obstacles. Mais moi, je crois profondément, encore une fois, que quand on leur donne les moyens, elles peuvent changer les choses. Alors, il faut vraiment que ces femmes se lèvent, fassent entendre leur voix. Parce que quand elles sont autour d'une table où on prend des décisions et qu'elles amènent leur point de vue, ça permet à une communauté de prendre de meilleures décisions. Il faut qu'elles osent et qu'elles développent leur leadership dans leur communauté.
Mais qu'est-ce qu'on entend par viol, violence sexuelle et violence basée sur le genre? Le substitut du procureur de la République et du parquet de grande instance de Goma, Yale Olivo, explique.
Au jour d'aujourd'hui, au sein du parquet de grande instance, il y a des magistrats qui sont spécialisés dans la répression des infractions de violence sexuelle.
Nous entendons parler des lois sur les violences sexuelles. Pouvez-vous nous expliquer la perception de toutes ces lois dans l'opinion publique chez les justiciables ici chez vous?
Effectivement. La base légale d'abord, on parle de loi pour la simple et bonne raison que le législateur congolais n'a pas voulu mettre qu'un seul arsenal juridique. Il y a plusieurs arsenals juridiques qui concourent à la lutte des infractions de violences sexuelles. Dans le cas d'espèce d'abord, nous tous, comme loi, il y a d'abord le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, le décret du 6 août 1959 portant code des procédures pénales congolais. Et après cela, on s'est rendu compte que toutes ces différentes lois, il y avait certaines, pas lacunes, mais sont arrivées à certaines limites. Parce qu'il y a eu des phénomènes sociaux qui ont vu le jour après cette loi. Et comme la loi doit être toujours sujet à l'adaptation par rapport à la réalité sociale du moment, on a été obligé de l'adapter à la réalité. C'est ainsi que vous allez voir qu'en 2006, il y a la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 sur le code des procédures pénales. Et il y a encore la loi numéro 06 du 20 juillet 2006, portant modifiant les décrets du 6 août 1959, portant code des procédures pénales. C'est ainsi qu'après cela, vous allez voir que le législateur ne s'est pas encore limité à ça. En 2009, compte tenu de certaines réalités du pays, le législateur a promulgué la loi portant protection de l'enfant. Et vous allez voir que dans cette loi aussi, il y a plusieurs infractions relatives aux violences sexuelles. C'est la loi numéro 09 du 10 janvier 2009, portant protection de l'enfant. Donc dans toutes ces différentes lois, il y a des éléments de répression par rapport aux violences sexuelles. Le but du législateur, c'est de mettre tout un arsenal juridique qui va aider les magistrats à réprimer les infractions de violences sexuelles dans notre pays.
Alors, quels sont les éléments constitutifs de l'infraction liée aux violences sexuelles?
Tout d'abord, quand on parle de violences sexuelles, dans la majorité de la population, assimile toujours les violences sexuelles au viol. Mais il serait de dire qu'aujourd'hui, les violences sexuelles ne se résument pas seulement au viol. Jadis, avec l'ancienne loi de 1959, le législateur rigidait que 6 infractions comme violences sexuelles. Mais aujourd'hui, nous en sommes à 16. Et ici, il faut ajouter certaines infractions maintenant commises et qui sont de la compétence des juridictions complémentaires telles que la Cour pénale internationale. Vous constaterez qu'il y a une évolution. Alors, s'il faut commencer à parler des éléments constitutifs proprement dits, nous serons obligés d'aborder chaque prévention. Mais des 16 infractions d'abord de violences sexuelles, d'abord 3 éléments fondamentaux par rapport à plusieurs infractions, parce qu'il faut savoir que les infractions de violences sexuelles sont des infractions, on peut dire, matérielles. Donc quand on dit une infraction matérielle, c'est que ce sont des actes positifs que l'agent accomplit et dont la société interdit. Par exemple, lorsque nous parlons de viol par rapport à la loi de 2006, par rapport au code pénal, on vous dit que par exemple, toute conjonction, rapprochement, charnel, même superficiel, dans tout orifice, d'autres vous disent par exemple que non, je n'ai pas eu à introduire ou bien à intromire l'organe génital masculin de celui de la femme. Mais aujourd'hui, même si l'homme introduisait son organe génital dans l'oreille simplement de la femme, ou bien dans la bouche, ou bien dans la partie anale, avec seulement l'intention d'avoir des fins sexuelles, c'est une infraction.
Ça s'appelle viol.
Tandis que maintenant, quand nous montons, par exemple, dans l'ancienne certaines lois, avant la loi de 2006, pour elle, n'assimile pas ça à certains éléments au viol. L'élément, par exemple, intentionnel, c'est la volonté de l'agent d'avoir ce désir sexuel et contre le gré même la volonté de la victime. Et quand on parle de l'intention coupable, c'est l'esprit, après avoir eu cette envie, la matérialisation qui a eu à opérer lors de cette infraction.
Alors, c'est l'ensemble de tous ces éléments qui constituent ce qu'on appelle violence sexuelle.
Là, nous ne sommes pas dans le cadre de violence sexuelle proprement dite. C'est oui. Ça, ce sont l'ensemble des éléments par rapport à l'infraction.
À l'infraction. Mais quand est-ce que ça devient violence sexuelle?
À ces jours, dans nos arsenals juridiques, quand on parle de violence sexuelle, souvent, nous omettons plus de parler aussi des infractions de genre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le législateur a voulu, et on s'est rendu compte que les infractions de violence sexuelle avaient des conséquences aussi sur les genres. Par exemple, certains cas, vous avez l'infraction, par exemple, que tout le monde connaît, qui sont des infractions phares. On parle du viol, il y a l'attentat à la pudeur, il y a l'harcèlement sexuel, il y a même des infractions telles que la zoophilie, nous avons la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants, la stérilisation, la grossesse forcée, le trafic d'exploitation des enfants à des fins sexuelles, et même la transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles et incurables, d'où on parle par exemple d'une personne sachant qu'il a atteint du VIH, et il veut volontairement inoculer à la population. Il y a la mutilation sexuelle aussi, il y a le mariage forcé, l'esclavage. Donc ce sont toutes ces infractions qui concourent et qui, si aujourd'hui on appelle ça violence sexuelle.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine Droits et devoirs. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi à partir de 6h30, 13h30 et 20h30, tous les jeudis à 9h15.
Votre magazine de droits et devoirs se poursuit. Nous parlons de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que la perception des lois inhérentes. Nous vous invitons à présent à suivre le témoignage d'un garçon de 12 ans.
J'étais parti au champ couper du bois. Un papa m'avait pris et amené dans son bureau en brousse. En cours de route, il va m'obliger à m'arrêter, à me déshabiller, en me demandant de m'incliner, puis il va me violer.
Après ce témoignage, nous revenons au parquet de grande instance de Goma pour nous entretenir une fois de plus avec le substitut du procureur de la République sur la réparation des victimes de viol.
Effectivement, les problèmes que nous rencontrons, c'est par rapport aussi à la réparation du préjudice subi par la victime, pour la simple et bonne raison que chaque cas a sa spécialité. Vous allez voir, il y a d'autres victimes de violences sexuelles, la réparation pour elles passe simplement lorsqu'elles s'expriment de tous ces sentiment qu'elle a vécu, elle se sent libérée. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui, la réparation pour elle, ce ne serait par exemple une réparation purement matérielle, lorsque, par exemple, il y a des cas de fistules. Moi, je pense que nous pensons que la meilleure réparation par rapport aux victimes de violences sexuelles, c'est l'encadrement de la société. Au moins, si la société accepte ces gens-là, ne les conçoit pas comme étant des personnes à part, mais les accepte, vous verrez que petit à petit, dans, au quotidien, par les différents actes à accomplir, la victime va oublier et elle va se responsabiliser. Parce que ça ne servira à rien de donner à une victime, pas comme la loi aujourd'hui nous dit, la loi pour la protection de l'enfant, il y a des cas où on alloue la peine, il faut toujours adjoindre les amendes et les dommages. Même si les juges allouent aujourd'hui 50 000, 100 000 dollars américains qui vont à l'enfant congolais, mais la victime en elle-même, si elle ne se retrouve pas dans la société, elle sera mal aperçue et ce sera pour tout un problème.
Le commissaire de police OPJ Gaston Itumpu explique la procédure de prise en charge juridique et la loi relative à la protection de l'enfant. La chaîne est longue.
La police spéciale de protection de l'enfant et de la femme, c'était l'ancienne appellation. Aujourd'hui, police de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles, nous menons les enquêtes préliminaires. Nous transférons les dossiers au parquet, des fois avec prévenu, même sans prévenu. Et il y a des auteurs aussi qui prennent fuite. Voici ce que nous faisons. Et orientation. Victime de violences sexuelles. La victime d'abord doit coûte que coûte aller à l'hôpital. Si la victime a commencé par l'hôpital, tant mieux. À l'hôpital, on va trouver le médecin qui va les soigner, on va trouver le psychologue, on va trouver une clinique juridique qui est installée au sein même de l'hôpital et la réinsertion sociale. Nous n'intervenons pas à ce niveau. La réinsertion sociale, nous ne sommes pas là. Si la victime est venue à la police, nous l'orientons à l'hôpital moyennant une réquisition à médecin. Et dans la réquisition, il y a certaines missions que nous confions aux médecins, notamment soigner la victime, et lui administrer les soins appropriés, évaluer les degrés de préjudice et les conséquences ultérieures. Voilà un peu certaines missions qui sont prévues d'ailleurs par la loi 06 par rapport à la procédure en matière de violence sexuelle, certaines missions qui sont définies là. À l'hôpital, les médecins aussi vont collaborer avec les psychologues pour essayer un peu de l'assister, lui donner certains conseils et enfin de voir, lui dire bon, que la vie ne se limite pas seulement à ce niveau, la vie continue. Voilà, vous pouvez
l'encourager.
L'encourager que la vie continue et si vous allez à la police fera son travail et la police pourra arrêter l'auteur de cet acte ou de cette agression et comme ça vous aurez à bénéficier de la réparation du préjudice causé par cet auteur. Donc ça c'est un travail du gouvernement congolais. Et là, si la victime n'est pas passée à la police, on le convainc à aller à la police.
Est-ce que vous recherchez aussi vous-même les infractions ou bien vous attendez d'être saisi?
Non, parce qu'il y a plusieurs modes de saisine. Nous avons des constatations. Au cas de flagrance par exemple, nous descendons sur les lieux et nous constatons et là, directement on transfère devant l'officier du ministère public pour le cas de flagrance. En dehors de ça, il y a des dénonciations. En dehors des dénonciations, il y a les bulletins de signalement. Il y a vous la presse aussi. Quand vous passez des informations à tel endroit, un crime s'est commis, nous allons à cet endroit-là. Donc voilà plusieurs modes de saisine que nous, la police, nous avons la tâche pour participer à la répression des violences sexuelles.
Et comment se fait l'administration de la preuve en matière des violences sexuelles?
Bon, ça c'est la technique vraiment d'enquête policière. L'administration de la preuve se passe à des différents niveaux. Commençons par le lieu des crimes. Il y a certains éléments de preuve que nous recherchons. Nous pouvons retrouver sur le lieu des crimes. Soit l'auteur aurait oublié quelque chose, soit il y a des témoins qui ont vu les actes qui se sont commis. Donc sur le lieu des crimes, nous avons les éléments de preuve qu'on peut retrouver. En dehors de ça, les médecins nous donnent certaines preuves qu'ils trouvent à son niveau. En dehors de ça, les témoignages même de ceux qui ont vécu la scène. En dehors de ça, nous avons la police technique scientifique. Sur le lieu des crimes, on peut prélever les empreintes. Donc il y a plusieurs moyens et je ne peux pas vous dévoiler tous les secrets de l'enquête.
Comment s'est fait la prise en charge socio-économique des victimes? Madame Elisia Adjoué supervise ces volets. On l'écoute.
Sur le plan économique, nous avons déjà réinséré 100 personnes.
Ce sont des victimes des violences sexuelles?
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui?
Leur vie a changé. Pour le moment, vraiment, nous remarquons qu'il y a une amélioration sur le plan social, surtout l'acceptation dans leur famille, mais aussi sur le plan économique. Ils sont maintenant en mesure de supporter les charges de leur famille, de scolariser leurs enfants, de payer les soins médicaux. Et il y a d'autres qui ont fait même des petits investissements comme l'achat des tôles, l'achat des parcelles, des champs. Bon, comme ici nous sommes en ville, toutes ces victimes ont opté pour les petits commerces. Il y a ceux-là qui vendent des fraises, haricots, donc les divers alimentaires, les épices, pagne, farine de maïs, farine de manioc. Mais il y en a aussi ceux-là qui font la transformation, qui fabriquent des jus de canne.
Tout ça, c'est le PNUD et le Canada qui vous prennent en charge?
Oui, oui. C'est avec l'appui du Canada et PNUD.
C'est ça que vous appelez le programme Tuping Ubakaji?
Oui, oui.
Qui veut dire?
Ensemble, luttons contre les violences sexuelles, l'impunité.
Lydia Adjoué, accenté.
Mashkour.
Merci de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Votre magazine Droits et Devoirs se poursuit. Nous parlons de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que la perception des lois inhérentes. Et sur le plan judiciaire, quelle solution durable à ce phénomène? Encore une fois, on écoute le ministère public, organe de la loi.
Pour mettre fin à ce phénomène, il y a deux pistes. Premièrement, par rapport à la population, on doit redoubler des campagnes de sensibilisation et de prise de conscience de la population, tant dans les milieux urbains que ruraux, parce que vous voyez qu'il y a certaines de nos coutumes qui, à un moment donné, ne s'adaptent pas bien avec la réalité des violences sexuelles, qui même certains éléments sont aujourd'hui considérés des infractions. Cas par exemple, ici, chez nous au nord, il y a les phénomènes qu'on appelle les tournements de l'érouture ou quoi, les courundes. Et hormis cela, là, cette sensibilisation de la communauté, de la population, nous devons aussi, du point de vue légal, renforcer toujours l'arsenal juridique pour appuyer cette sensibilisation, parce que la crainte de la loi, ça pourra amener la paix sociale.
Monsieur le substitut du procureur de la République, Olivo, organe de la loi, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation pour parler avec nous de la lutte contre les violences sexuelles dans le Nord Kivu.
Merci beaucoup.
Ainsi s'achève ce magazine présenté par votre serviteur Jeff Ngoyi avec le concours de Jean-Marc Matouaki. Mardi prochain, nous abordons la deuxième émission sur les violences sexuelles avec un accent particulier sur le fonctionnement des cliniques juridiques et les One Stop Center à travers le programme du PNID Tuping et Ubakaji. Agréable condition d'écoute de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.